at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez 1h10 Pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous enregistrons toujours en distanciel, et ce mois-ci, ainsi que pour les deux prochaines émissions à venir, une nouvelle chroniqueuse nous rejoint. C'est Cindy Asselin de Beauville, alias Oshi sur les réseaux sociaux. Tu es autrice et narrative game designer féministe engagée, tu t'intéresses aux causes LGBTQI+, à l'écologie, aux questions de genre et aux problématiques raciales. Aujourd'hui, tu travailles pour Acte Zero et Arte et tu développes aussi ton propre jeu indé nommé Where the Stars Lie. Peux-tu nous dire de quoi va parler ta chronique ?
Oui, bien sûr. Alors, ma chronique s'intitule Inclus-nous dans l'histoire et elle est racontée à la manière d'un conte audio. Je vais y aborder l'inclusivité en fait sous le prisme de fausses légendes créées dans l'univers d'un jeu vidéo que j'ai choisi.
Merci, on a hâte d'écouter ça. J'aimerais maintenant accueillir notre invitée du mois. Elle est doctorante à l'Université de Montréal et travaille sur l'histoire des jeux vidéo pornographiques. Elle est également co-organisatrice de l'InGame ENS, un séminaire consacré aux jeux vidéo. Il s'agit de Charlotte Courtois. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir, bonjour à tous.
Bonsoir.
Salut Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir... Pardon.
Non, j'allais dire que je suis super contente d'être là. Et je suis très très curieuse de la chronique de Cindy aussi.
Mais c'est nous qui sommes contents.
Oh.
Merci à toi de venir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, sois la bienvenue dans l'émission et bien sûr n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques ou rebondir sur un sujet.
Merci, c'est gentil et avec plaisir, parce que tout a l'air fascinant, j'ai super hâte.
Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant d'une très célèbre adaptation de roman polonais, puis Cindy nous contera le premier épisode de sa chronique, ensuite Alex vous parlera de Tales of Arise, Jean mènera l'entretien de Charlotte, ensuite nous entendrons la chronique de H qui s'attaquera à la question qu'est-ce que c'est défendre les intérêts des travailleuses du jeu vidéo ? Et enfin, l'émission se conclura sur notre classique blind test, orchestré cette fois par Alexandre.
Vous n'êtes pas prêts.
J'attaque cette seconde chronique par un monument du jeu vidéo, la série des The Witcher. Il s'agit de trois jeux d'action RPG développés par le studio polonais CD Projekt Red entre 2007 et 2015. Ils sont devenus célèbres depuis la sortie du dernier épisode, The Witcher 3. Si je parle de The Witcher aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de l'adaptation en jeu d'une saga de romans de fantasy polonais, Le Sorceleur, d'Andrzej Sapkowski. On suit dans ses romans les aventures du sorceleur Geralt de Rive, un homme mutant qui a été entraîné depuis son enfance à chasser et à tuer des monstres et d'autres créatures malfaisantes. Il évolue dans un monde corrompu, marqué par la guerre, les intrigues de pouvoir, la misère, à la fois très inspiré par la mythologie slave et par l'histoire polonaise. Ce qui est très intéressant dans ce triptyque de jeu, c'est que ce n'est pas exactement une reprise de l'histoire originale, mais un prolongement des aventures de Geralt, c'est-à-dire que les événements de la trame principale se déroulent après les livres. On retrouve cependant des références directes aux écrits de Sapkowski dans plusieurs quêtes annexes, je vais y revenir après. Ainsi, les deux œuvres s'alimentent l'une et l'autre. Le Sorceleur offre un solide matériau de base que The Witcher reforge dans une extension qui semble avoir permis la popularisation des romans hors des frontières de la Pologne. À vrai dire, Le Sorceleur était du véritable pain béni pour le studio polonais qui a grandi avec ses histoires. Geralt de Rive, c'est un mercenaire qui est payé pour tuer des monstres. Il prend des quêtes, des missions, accomplit la tâche demandée et retourne voir le donneur d'ordre pour récupérer la récompense, et le cycle reprend et se poursuit. Ce que je viens de vous décrire là, c'est une boucle de gameplay. C'est un mécanisme qu'on utilise dans le jeu vidéo pour donner un objectif aux joueurs et aux joueuses et leur donner envie de continuer à jouer. La vie de Geralt de Rive est une boucle de gameplay. C'est donc le personnage idéal à incarner dans un jeu d'action RPG. Sachant qu'en plus, l'auteur donne de nombreuses indications sur les méthodes de combat de Geralt, par exemple les signes magiques, mais aussi sur les monstres combattus, comme la Strige que l'on retrouvera dans The Witcher 1. Ces jeux sont une suite qui reste très fidèle à l'univers, le bestiaire rencontré, les sorts utilisés, les lieux visités, ou encore les caractéristiques des personnages. Je vous cite pour exemple un passage du livre 1, qui est la première description physique de Geralt. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos, qui d'eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. Le Sorceleur est d'abord un ensemble de nouvelles, la trame principale est au départ entrecoupée d'histoires annexes, de légendes, sur les deux premiers tomes. Cela permet au studio de reprendre une partie de ces petites histoires sous forme de quêtes annexes. Je vous donne un exemple anecdotique, mais qui en dit long sur la connaissance des créateuristes du jeu, sur l'univers de Sapkowski. À plusieurs reprises dans les livres, on apprend que les ponts sont généralement construits, gardés et entretenus par des trolls. Voici deux passages extraits des livres 1 et 2. Les trolls ont construit ce pont dans les temps anciens pour y installer un péage. Un troll installé à l'entrée du pont, qui exige une redevance de chaque personne qui veut traverser. Dans The Witcher 2, on a une quête dédiée à cet aspect, problème avec le troll. Il s'agit d'un troll sou qui barre le passage sur un pont. On a alors deux options, le tuer et réclamer un prix, ou discuter avec lui et comprendre qu'il a perdu sa femme, on peut alors l'aider à la retrouver. On voit ici qu'il y a tout un travail d'écriture pour permettre d'adapter quelques réflexions des livres en une quête annexe assez conséquente. Plus globalement, ces quêtes annexes et même la mise en scène des villes et des campagnes permettent de mettre en avant tout un ensemble de personnages, leur quotidien, marqué par le travail dans les champs, les conséquences de la guerre sur leur famille, etc. Cela fait écho à ce que fait l'auteur dans ses romans, mettre en avant le peuple et comment il peut être victime de décisions politiques d'apparence anodines. Je vous parlais du choix dans la quête du troll, c'est quelque chose d'important dans The Witcher, puisqu'on ne fait pas que combattre, fabriquer des potions et voyager. On dialogue énormément, et c'est là que réside une des grandes forces du jeu. On a souvent des choix de dialogue et de quêtes conséquents, dans lesquels Geralt, malgré son cynisme, s'évertue à essayer de faire le moindre mal dans une situation donnée. On s'en rend compte assez vite, la complexité des problèmes qu'il a à gérer ne vient pas tant des monstres que des hommes. Peu importe les choix faits, cela n'aura jamais de grandes conséquences sur la situation initiale. L'idée derrière, c'est que le changement ne peut survenir d'une seule personne, si puissante ou si intelligente fut-elle. On a besoin d'une action en structure, en profondeur, d'une action politique collective, mais sur cela, le jeu comme les livres demeure assez pessimiste. Merci de m'avoir écouté.
Ta chronique était super intéressante. Ce qui m'a intéressée, c'était vraiment les trolls et puis les ponts. Là, j'adore ces petits points dans la mythologie nordique. Je crois que les trolls et les ponts, c'est vraiment un truc qui est hyper courant dans les contes et dans les histoires mythologiques. Je sais que dans Skyrim, il y a aussi des références à ça. Je crois qu'il y a un endroit là où on peut trouver un troll qui est mort sous un pont. Je sais que de devoir payer un tribut à un troll qui traverse, c'est un truc qui est référencé à plein d'endroits. Je sais que même dans Monkey Island 2, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure avec Jean, parce que c'était mon sujet de...
J'y compte
c'était
bien.
C'était mon sujet de master jadis. Il y a aussi un moment là où on doit payer un troll pour traverser un pont, et quand on lui donne le tribut, surprise, en fait c'était George Lucas déguisé en troll dessous. Tout est lié.
Perso, j'ai essayé de me mettre plusieurs fois à The Witcher, j'ai essayé de me mettre au jeu, j'ai essayé de me mettre à la série parce que tout le monde en parlait. J'ai jamais accroché, j'ai vraiment pas du tout accroché à cette espèce de perso de mal sigma qui est Geralt. J'ai vraiment pas accroché à la beaufrie qu'il y a très très vite. Alors, moins dans le jeu, dans la série, au bout de 20 minutes, je crois qu'il y avait une scène avec une scène où il y avait un vieux mage qui s'était entouré d'une illusion avec des meufs à poil partout, et c'était... Je suis très très vite fatigué par The Witcher, et pourtant il devait y avoir des trucs intéressants derrière, mais ouais. Par contre, peut-être pour partir sur une note un peu plus positive, je trouvais ta chronique super intéressante. Je trouvais ça aussi intéressant de souligner le fait que la structure du roman rejoignait beaucoup celle d'un jeu vidéo, et en vrai ça me fait me demander si on pourrait pas retourner la question et se demander à quel point la façon dont on structure les jeux vidéo comme quête etc a été pas mal influencée par tout ce qui est roman de fantasy, par tout ce qui est jeu de rôle sur table, à quel point il y a eu des échanges là-dedans, à quel point la façon dont on pourrait structurer les jeux vidéo aurait pu être différente si c'était arrivé à un autre moment ou dans d'autres contextes. Donc voilà, mais c'est pas des questions sur lesquelles je suis très experte, donc.
Concernant, j'ai commencé à jouer au The Witcher et finalement l'univers était particulièrement vaste, mais je ne l'ai pas compris parce que je n'avais pas lu les bouquins, je n'avais joué à aucun The Witcher avant, et j'ai commencé à saisir l'importance en fait de l'univers à partir du moment où j'ai regardé la série et les films en fait qui en découlent. Et ce qui est vraiment intéressant de pointer avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui, c'est qu'ils ont enrichi chaque petit point de lore, chaque petit je pense précisément en fait aux cartes, aux jeux de cartes qu'ils ont développés et qu'ils ont rendu particulièrement réels et auxquels on peut jouer en fait aujourd'hui. Et ils ne se sont pas en fait retenus de rester fidèles au livre. Ils se sont dit on peut explorer encore plus, on peut développer, on peut s'enrichir de ce qui existe déjà pour faire quelque chose d'autre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Ouais, je suis complètement d'accord, c'est une extension des livres, je trouve. C'est très chouette.
d'un point de vue légal, du coup, ils ont complètement le droit de faire pas ce qu'ils veulent, mais du coup, j'imagine que c'est parce qu'ils ont eu, ils ont eu les droits que du coup, ils peuvent derrière se permettre ce genre de choses, non? C'est une vraie question, parce que je connais pas du tout ce domaine-là.
D'un point de vue légal, s'il y a eu cession, effectivement, ils ont les droits de faire. Après, ça dépend effectivement des clauses de ce qui a été cédé, mais s'ils ont accepté de céder pour proposer différents produits, que ce soit des jeux, des films, des figurines ou autre chose comme ça, oui, ils ont les droits.
On passe à la chronique suivante avec le conte aux dieux de Cindy.
À toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Cindy et je vais vous raconter d'étranges légendes qui désormais font leur coming out. Écoutez attentivement, voici l'histoire de l'origine des Pokémon chromatiques. Il était une fois, dans la région de Johto, un petit village installé au bord d'un lac peuplé de Magikarp. En ces temps mémoriaux, la pêche de Pokémon était légion. Il n'existait pas un seul humain qui, à l'hypothèse d'un festin en chair et en os, n'envoyait pas sa ligne à l'horizon. Victimes de leur chair succulente, les populations de Magikarp diminuèrent au fil des temps, jusqu'au terrible moment où il ne resta plus qu'une dizaine d'individus. Dirigés par le courage, mais surtout la peur, les survivants bravèrent la pression et nagèrent sans se retourner vers les abysses du lac. Le clan fut confronté à un nouvel environnement hostile, froid et sans lumière. Ici-bas, foule de Magikarp trouvèrent la mort, seuls. Cependant, grâce à leur sacrifice, les endeuillés puisèrent dans leurs soleils intérieurs et contre toute attente, le clan résista. 1815 mois plus tard, soit 151 ans après leur descente dans les entrailles du lac, les Magikarp avaient muté. Et elles avaient abandonné leur couleur rouge pour un doré vif qui leur permettait de naviguer dans les eaux les plus obscures. Mais à quel prix? La nuit, la recrudescence de ces lumières mobiles ne passa pas inaperçue, et la pêche reprit alors de plus belle, emportant en première victime un Magikarp capturé. D'abord observé, puis trimballé en aquarium, le Magikarp esselé atterrit dans un laboratoire. À la vitre, les scientifiques se languissaient de questions sans réponse. Qui était-il? D'où venait-il? Et ses couleurs dorées, les rendaient-ils spéciales? Ou pire, dangereux? Le Magikarp, quant à lui, respirait la peur. Avant, il aurait pu compter sur l'aide des siens, mais désormais, il était seul. Seul et asservi. Il maudissait ses écailles, celles qui l'empêchaient de se fondre dans la masse. Pourtant, il faisait tout comme les autres. Alors pourquoi? Pourquoi devait-il subir ça? Las de questions, ses forces le quittèrent, et le solitaire doré ferma les yeux. Ce fut la chaleur, presque étouffante de l'eau, qui le ramena à la vie et à la raison. Il allait être dévoré. Ne lui restant plus qu'à prier, le Magikarp souhaita, en dernier vœu, redevenir rouge, comme avant. Soudain, son corps se mit à briller et à se métamorphoser. Le Pokémon grandit, explosant la marmite, s'imposant face à ses tortionnaires. Et le voilà, rouge comme il le souhaitait. Mais à quel prix? Les léviators normaux étaient bleus, pas rouges. Envahi par la terreur, il s'évada. La liberté désormais en compagnon, le léviator ne vivait que pour retrouver les siens. Il remonta les courants, les rivières, les cascades, arborant ses impressionnantes couleurs qu'il portait avec honte. Puis, un soir, d'un jet de lumière, il déchira la paroi rocheuse et s'extirpa du fond du lac. Cependant, il était trop tard. Son clan n'était plus. Fou de colère, le léviator déchaîna sa rage sur le village et le détruisit, modifiant ainsi la forme du lac. À partir de ce jour, il jura qu'il resterait aussi longtemps qu'il le pourrait, fier et visible, hurlant pour exister. Au fil des années, le lac devint un refuge pour Pokémon chromatiques. Les visiteurs le renommèrent même le lac Colère, en hommage aux événements passés. Mais une fois le vieux léviator disparu, les Pokémon chromatiques, désormais sans protection, préférèrent retourner dans l'ombre. Aujourd'hui, il est raconté que des siècles plus tard, la Team Rocket essaya de ranimer la légende de ce léviator disparu en forçant un Magikarp à évoluer à l'aide d'ondes électriques, ce faisant créant un autre léviator rouge. Mais ceci, mes alliés, est une autre histoire.
C'était trop bien, merci.
Magnifique, j'en veux d'autres.
Est-ce que vous avez vu à peu près le sous-entendu de ce conte?
Je pense qu'il y a plusieurs pistes. À mon avis, la question des couleurs, ça invite à faire des parallèles avec la société actuelle qui est évidemment coloriste, qui voit les gens en couleur, ou quand elle veut pas voir les gens en couleur, c'est encore pire finalement.
Ah, moi je pensais surtout à la, au phénomène d'exclusion, de repli sur soi, d'une communauté maltraitée, etc. Et de la solitude du poisson capturé qui m'évoque aussi celle de qu'on peut avoir lorsqu'on est confronté à une autorité injuste, etc. C'est ça, je sais pas, c'est les parallèles que j'ai tracés en tout cas en ce qui me concerne.
C'est même ça en fait. L'idée est qu'il existe en fait toujours dans les jeux vidéo qu'on a dans les mains, il existe toujours des façons d'observer les endroits où il y a des petites touches d'inclusivité qui sont ici et là. Et on n'y fait pas tout à fait attention parce que parfois elles n'ont pas été faites pour ça. Par exemple, les Shiny dans Pokémon, ils ont été créés à la base pour faire un petit clin d'œil aux joueurs qui décidaient de modifier un peu leur console. Et ils sont réapparus une deuxième fois sur la Game Boy Color parce que c'était possible en fait de voir de la couleur et ils voulaient exploiter le potentiel de la Game Boy Color, donc ils ont décidé d'avoir des Pokémon de différentes couleurs. Mais ce qu'il en est sorti, c'est que peut-être qu'au début c'était simplement un petit clin d'œil, mais pour des personnes de couleur comme moi, j'y vois un tout autre message. Et ça, c'est important et intéressant, je trouve, de l'exploiter, de le montrer de manière un peu isolée, comme ils l'ont fait avec le Léviathan rouge du lac Colère.
L'histoire que tu nous as racontée, toi, du coup, tu l'as enrichie, ou c'est vraiment les sources officielles, entre guillemets, de l'histoire du Léviathan rouge?
L'histoire du Léviathan rouge dans la série et dans les jeux vidéo, c'est la Team Rocket qui a essayé de réanimer un Magikarp rouge et de le faire évoluer différemment. Donc il y a eu torture, il y a eu maltraitance, et c'est pour ça qu'il a évolué en Léviathan rouge. Et c'est aussi pour ça qu'il était en colère, parce qu'il avait été torturé et maltraité. Je me suis basée sur ce qui existe déjà pour faire un conte qui aurait existé, mais qui, effectivement, n'existe pas, et qui aurait inspiré la Team Rocket dans le futur pour se dire « ça y est, on veut retrouver un Léviathan rouge, on veut que ça existe, que cette unicité existe ».
Ok, mais en tout cas, c'était très bien amené. C'était vraiment, vraiment très chouette. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour ta chronique, Cindy, c'était très chouette. Je vais passer la parole maintenant à Alexandre pour nous parler de son coup de cœur du mois.
Oui, merci Lys. Alors, ce mois-ci, j'ai eu envie de vous parler d'un jeu que j'attends depuis sa première annonce à l'E3 2019 et qui m'a redonné foi en une saga, et c'est bien Tales of Arise. Alors, je pense que la saga des Tales of, elle est connue de toutes et tous les fans de JRPG, mais je vais me permettre de faire un petit point historique quand même. La saga Tales of, éditée par Namco et développée par la Wolf Team, a débuté sur Super Nintendo en 1995, avec Tales of Phantasia. Alors si vous n'y avez jamais joué, c'est normal. La seule version de Phantasia éditée hors du Japon est sortie sur Game Boy Advance, une console qui avait assez d'excellents jeux pour que vous jouiez à autre chose qu'une réédition d'un jeu SNES. Et dès le début, les Tales of se sont éloignés d'autres pontes du JRPG comme les Final Fantasy ou les Dragon Quest pour proposer du combat en 2D en temps réel, ce que la page Wikipédia de la série nomme le Densetsu no RPG, le RPG légendaire. Malheureusement, j'ai pas réussi à creuser cette appellation plus loin, parce que vous n'imaginez pas le nombre de RPG japonais qui s'appellent Densetsu no quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se rapprocherait plus de l'action RPG. Côté scénario, on est sur du JRPG assez classique, un jeune adolescent commence par tuer des rats dans les égouts et finit par sauver le monde d'un grave danger, et d'ailleurs il noue un lien amoureux avec une jeune fille qui l'accompagne, dont on apprend qu'elle est la descendante d'un dieu ou un truc du genre. À chaque fois ou presque, ça se déroule comme ça, désolé pour les spoilers. La Wolf Team chez Namco va rester à la 2D jusqu'en 2003, où, en plus de devenir le Namco Tales Studio, l'équipe fait passer ses jeux à la 3D avec ce qui est, je pense, le premier contact d'énormément d'Européens avec la saga Tales of Symphonia. Alors moi, en 2003, j'avais 6 ans, et on n'avait pas de GameCube à la maison. Alors j'ai complètement vécu ce jeu par procuration, je regardais mon frère y jouer sur la GameCube de François, un copain qui passait plus de temps chez nous que chez lui le week-end. J'ai dû attendre le collège pour me faire prêter à mon tour une GameCube avec le jeu, et vraiment, quel jeu! Ok, peut-être que je me souviens plus du fait que je devais faire tenir la console sur un angle bien particulier pour faire fonctionner le lecteur de disque, que du jeu en lui-même, mais j'avais quand même passé un excellent moment, je vous jure. Enfin bref, à peu près à la même époque sort Tales of Vesperia, qui est pour moi la version la plus réussie d'un Tales of. Des personnages attachants qui ne tombent pas dans un manichéisme idiot, et un jeu qui, côté gameplay, est tout ce qu'était Symphonia, mais en mieux. Et depuis, à chaque fois que je lance un nouveau Tales of, je n'arrive pas à retirer ce souvenir de Vesperia, et je me dis que quand même, ça ne sera jamais aussi bien. Et bien, ça a pris presque 15 ans, mais Namco a enfin décidé de faire presque table rase du passé en annonçant Tales of Arise, qui est tout simplement le Tales of que j'attends depuis 10 ans. Arise prend place dans le monde médiéval de Dana, oui, comme la chanson, qui est réduit en esclavage par le monde de Rena, technologiquement bien plus avancé. Le monde de Dana est alors divisé en 5 royaumes, chacun avec à sa tête un seigneur qu'il va falloir saigner pour arriver à la fin du jeu. On incarne Alphen, un esclave qui porte sur sa tête un casque de fer qui lui est impossible à retirer et qui est aussi accessoirement complètement amnésique. J'aimerais vous en dire beaucoup, mais malheureusement je suis encore qu'à la moitié du jeu et j'aurais du mal à en donner un avis global tant je suis sûr qu'il me réserve bien d'autres surprises et subtilités. Sachez tout de même que c'est le Tales of le plus beau auquel vous jouerez, notamment parce que Namco a décidé de quitter leur moteur graphique maison pour l'Unreal Engine 4, et que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir sur les combats d'un Tales of, et que jusqu'ici, l'enchaînement des événements scénaristiques et des différentes situations est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Mais pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur jeu pour les personnes qui, comme moi, boudaient un peu la série des Tales of depuis Vesperia, mais aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient se mettre à cette saga avec un opus moderne.
J'ai une question pour toi. Je m'intéresse aux engine studies, là, qui est genre dans l'étude des jeux. C'est quand on s'intéresse aux moteurs de jeu avec lesquels sont faits les jeux, des études plus techniques. Et tu as mentionné qu'ils avaient abandonné leur moteur qu'ils avaient créé pour passer à Unreal Engine. Et donc, toi qui as joué au précédent jeu, est-ce que tu pourrais me dire ce que ça change par rapport à ton expérience de jeu? Esthétiquement, qu'est-ce que ça change? Si tu as remarqué des trucs?
Alors, esthétiquement, ça change beaucoup de choses. Après, j'ai essayé de rechercher un peu, ne serait-ce que le nom de leur moteur, mais j'ai pas trouvé. Ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même très confidentiel. Par contre, j'étais tombé sur un Reddit, un post Reddit que j'ai là, de gens qui spéculent un peu. Je l'ai sous les yeux, du coup, c'était en 2017, quelqu'un qui disait pourquoi est-ce que Bandai, ils ont pas updaté leur moteur de jeu pour les Tales of, on dirait toujours des jeux PS2, c'est pas normal, quoi. Et il y a un mec qui lui a fait une bonne réponse, quoi, pour lui dire, enfin une grande réponse plutôt, pour lui dire qu'il y avait aussi pas mal de choix de budget, parce que les Tales of, c'est pas des jeux qui se vendent par palette. Enfin, le dernier, c'est du coup, Arise, c'est quand même beaucoup vendu, mais sinon, c'est pas trop des jeux qui se vendent par palette, et donc ils sont restés sur le même moteur, mais avec 2-3 petits trucs en plus à chaque fois, sans trop changer. Mais sur moi, ce que je vois sur Tales of Arise, c'est que, enfin, ne serait-ce que sur les particules, sur les décors, sur tout ça, enfin, je sais pas trop comment expliquer, parce que j'ai pas trop le bagage technique derrière non plus, mais tu vois beaucoup plus loin que sur les autres Tales of, que t'as quand même un environnement qui est beaucoup plus vaste et plus beau, enfin, que je sais pas trop, il fait moins cartoon, en fait, j'ai l'impression, par rapport à leur moteur et à ce qu'ils utilisaient avant, que déjà ça change quand même pas mal, même si après un JRPG ça reste quand même toujours pas cartoon, mais voilà, c'est pas le plus réaliste qu'on puisse trouver, quoi.
Merci pour ta chronique, Alex. Avant de retrouver Charlotte Courtois pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale. On écoute Diving, composé par Dean Evans pour Waterworld, sorti en 1995. Bonne écoute. Thank you. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Charlotte Courtois, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Ulysse. Donc Charlotte, rebonjour, merci encore de te joindre à nous ce soir. Comme Ulysse l'a indiqué en début d'émission, tu es doctorante à l'Université de Montréal et tu travailles sur l'histoire des jeux vidéo pornographiques, un sujet passionnant dont on entend malheureusement trop peu parler, et c'est pour cette raison que j'ai souhaité t'inviter à venir prendre la parole dans Une heure et des pixels.
Coucou à tous, merci.
En guise d'intro, première question, comment en es-tu venu à t'intéresser aux jeux vidéo pornographiques? Qu'est-ce qui t'a ensuite motivé à en faire ton sujet de recherche? Et enfin, comment tu as négocié le virage avec tes recherches précédentes? Parce que je rappelle pour nos auditeurs que tu as fait ton mémoire de Master 2 sur la construction de l'espace dans les deux premiers Monkey Island, donc c'est vrai qu'on peut éventuellement chercher une cohérence entre cette recherche-là et la recherche sur la pornographie vidéoludique ensuite.
C'est clair, je pense que c'est un petit peu... Ça peut être surprenant, vu de l'extérieur. En fait, du coup, voilà, j'étais à Paris 3 pour faire mon master. Donc, du coup, évidemment, Paris 3, vous connaissez tous, puisque vous êtes affiliés à la Sorbonne Nouvelle. Donc, c'est une fac assez légitime, en théorie, en esthétique, etc. Donc, j'ai fait... Tout ce que j'ai appris là-bas m'a passionnée. Et j'ai fait mon master sur l'étude de l'espace en théorie de l'esthétique pure sur Monkey Island. Donc Monkey Island, c'est un espèce de monument dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme de monument, mais c'est pertinent parce que je veux dire que c'est un jeu qui est hyper légitime. Si les gens qui s'intéressent à un certain type de jeux vidéo qui sont considérés comme... les grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Donc, je fais des grands guillemets avec mes doigts parce que, justement, ce que je veux critiquer, c'est cette légitimité, mais j'en viendrai après. Tout le monde connaît Monkey Island, là. C'est fait par LucasArts, donc studio de jeux vidéo fondé par George Lucas, donc évidemment créateur de Star Wars, là, comme si c'était à répéter. Et tous les créateurs, à peu près, qui sont à l'origine de Monkey Island, Ron Gilbert, etc., c'est tous des superstars du jeu vidéo qui font encore des jeux aujourd'hui, pour la plupart. Donc, je suis partie d'un truc hyper légitime, etc., à faire de la théorie de l'esthétique, donc il y a encore une science noble. C'est hyper classe, là, on parle de théoriser l'espace en comparaison avec des constructions du 19e siècle, d'évolution de la ville, etc. Je comparais avec l'espace de Disneyland, donc avec question de construction de l'espace capitaliste, etc. Et en arrivant à mon sujet de thèse, donc à la fin de mon master, je me suis demandé sur quoi est-ce que j'allais faire. Et naturellement, évidemment, je me suis dit que j'allais continuer dans des études de construction de l'espace avec un autre jeu qui m'avait passionné, qui était Skyrim. Et j'ai travaillé dessus pendant un été pour lancer ça. J'avais même un directeur de recherche qui était prêt à me suivre. Et en fait, j'étais assez malheureuse. Donc alors évidemment, c'est un petit peu bizarre à dire, parce que c'est pas du tout scientifique comme terme, mais il y a vraiment eu un espèce de mal-être entre Skyrim, qui est genre un espèce de jeu qui orchestre que des formes d'oppression, en fait. C'est de la violence contre tout le monde, même... Toutes les oppressions sont politiques dans le jeu. Évidemment, il y a du racisme partout, il y a du sexisme partout. Ça correspondait absolument plus du tout à ce que je voulais voir au quotidien. La communauté de Skyrim n'est pas facile non plus. Et encore une fois, c'était cette espèce de jeu hyper légitime que tout le monde aime. Et j'en avais marre parce qu'en fait... Il y a beaucoup de gens qui parlent de Skyrim. Il y avait déjà pas mal de gens qui parlaient de Monkey Island, mais Skyrim, c'est tellement récent, là, vraiment. Il n'y a pas encore des Skyrim studies, mais enfin, il y a pas mal de gens qui en parlent déjà de façon théorique et qui sont fascinants, c'est des chercheurs incroyables. Et je me suis dit que ça allait pas le faire, que j'allais pas passer une bonne thèse, que j'allais être malheureuse de suivre un chemin aussi légitime que ça. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que c'était les zones d'ombre des jeux vidéo, des études de jeux vidéo. Et en suivant quelques conférences à ce moment-là, quelques séminaires sur l'histoire du jeu vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des pans entiers de l'histoire qu'on n'avait absolument pas documentés, dont l'histoire des jeux vidéo pornographiques, mais aussi l'histoire de jeux qu'on appelle des jeux pour filles, donc encore une fois, guillemets avec mes doigts, les jeux pour filles, mais vous savez, là, par exemple, ces jeux flash, là où on doit maquiller des gens... Sur internet avant de faire des petites photos sur un runway en HTML5, enfin en Flash à l'époque, et maintenant les mêmes jeux existent en HTML5. Et c'est des jeux en fait qui sont joués par énormément de gens. Ils sont évidemment totalement déconsidérés et invisibilisés, mais ça les rend pas moins fascinants et moins légitimes à mes yeux de faire partie de la culture vidéoludique. Du coup, j'avais envie de partir dans cette direction-là plutôt, et après des expérimentations, c'est plutôt vers les jeux porno que je suis allée, parce que les jeux pour filles, ça posait d'autres questions compliquées, et c'était étonnamment plus étudié que les jeux porno. Donc voilà, très longue réponse, je suis désolée Jean, mais transition compliquée elle aussi.
Non, pas du tout, c'est intéressant de savoir comment tu en es venue là, surtout qu'il y a toute une démarche... presque politique derrière ça, enfin même complètement politique derrière ton choix de sujet et d'objet de recherche. Donc non, c'est hyper chouette, et ça me rappelle d'ailleurs ce pan de l'histoire vidéoludique un peu effacé, un peu invisibilisé. Ça me rappelle notamment la reco d'Alexandre du mois dernier, qui nous parlait de cette vidéo de la chaîne YouTube de Polygone, qui parlait des premiers jeux vidéo français qui étaient eux-mêmes très politiques et dont on a ensuite plus beaucoup entendu parler. Donc voilà, j'invite nos auditeurs qui n'auraient pas écouté cette recommandation d'écouter notre numéro du mois dernier. Entrons ensuite à présent dans le vif du sujet, Charlotte, et commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un jeu pornographique ? Quels sont les critères qui permettent, ou en tout cas qui te permettent à toi, dans le cadre de tes recherches, de définir un jeu comme étant un jeu porno ?
Alors ça, c'est vraiment une des questions qu'on me pose très souvent aussi quand... quand je parle de mon sujet à plein de gens qui jouent pas aux jeux vidéo en particulier, quand j'en parle, c'est généralement, quand je dis que je travaille sur des jeux porno, c'est soit « Ah, mais trop bien, j'en connais plein », ou alors soit « Mais ça existe les jeux porno, qu'est-ce que c'est ?» Et généralement, bah, comme pour la porno d'une manière générale, on voit vite quand c'est des jeux porno, c'est quelque chose qu'on définit assez bien quand on est face à ça. Mais ma définition à moi, c'est vraiment quand la représentation sexuelle est au centre du jeu. Donc par exemple, un jeu comme God of War, là où il y a une représentation d'une relation sexuelle, quelle que soit sa qualité, là, puisque j'y suis, ça compterait absolument pas dans mon corpus. Il faut que ce soit bien plus central. Donc vraiment que ce soit soit le core gameplay, soit vraiment un des buts principaux de l'enjeu du jeu.
Après avoir abordé du coup la nature d'un jeu pornographique, un peu d'histoire, d'un point de vue du coup historique, quand est-ce qu'est né le jeu vidéo pornographique ? Est-ce qu'il est apparu dès le moment où l'industrie du jeu vidéo a commencé à vraiment prendre forme, donc disons allez, les années 70 pour aller vite, ou est-ce que c'est plus tardif ? Est-ce qu'on a des traces du coup d'une naissance du jeu porno ? Est-ce qu'on connaît le premier jeu porno, si jamais il a été référencé ? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet-là ?
Alors ça c'est une question hyper intéressante. Ce qu'on considère généralement comme le premier jeu porno, c'est ce jeu qui est sorti en 81, créé par Sierra Online, en particulier par Roberta Williams, qui est la co-créatrice de Sierra Online. Ça s'appelle Soft Porn Adventure. Donc c'est un jeu d'aventure textuelle dans lequel on doit ken, là. Donc c'est évidemment un jeu hétérosexuel, etc. En fait, il se trouve que c'est une version textuelle de ce qui sera plus tard les jeux sur Larry, donc pas hyper progressiste, évidemment. Bon, c'est ce qu'on considère comme le premier jeu porno. Je pense évidemment que c'est pas vrai, mais il se trouve que c'est très difficile d'avoir des traces de ce qu'étaient les jeux avant. La conservation des jeux vidéo, c'est une grande problématique. Donc dans les années 70, dans la fin des années 70, les jeux, donc, ils ont été popularisés sous forme d'arcade. Avant ça, ils étaient dans les laboratoires universitaires. Donc c'est possible qu'il y ait eu des étudiantes et des étudiants qui aient créé des jeux porno. C'était elles et eux qui avaient créé. Donc tu as parlé tout à l'heure, Jean, je crois que tu as cité Colossal Cave Adventure et Zork. Donc ça, c'est deux jeux qui ont été créés, je crois, au MIT, Stanford, ou je ne sais plus à quelle grande université américaine. Et donc en fait, après, les jeux ont été popularisés sous forme d'arcade. Et après, ils ont commencé à venir à la maison. Donc soit sous forme de home pong ou alors sous forme de console à la maison, avant d'être des micro-ordinateurs, parce que c'était encore bien trop cher. Et c'est vraiment quand on a les premiers micro-ordinateurs, donc qui permettent de jouer à des jeux, mais surtout d'en programmer, qu'il y a vraiment un tournant là où on peut voir beaucoup de programmation amateur. Donc c'est là qu'il y a une explosion, je pense, des jeux porno, alors qu'avant, ça doit être certainement des exceptions. Donc c'est au moment de la fin des années 70 et du début des années 80 qu'il doit y en avoir beaucoup. Et il faudrait étudier plateforme par plateforme, trouver des archives pour pouvoir voir ça. Moi, j'étudie surtout la Commodore 64, donc sortie en 83, et la ZX Spectrum qui est sortie, je crois, aussi en 83. Et du coup, je suis un petit peu tard pour voir qu'est-ce que ce serait le premier jeu porno. Donc du coup, je peux pas répondre à ça. Mais pour avoir des pistes, il faudrait jouer à des jeux avant ça. Mais le problème, quand on étudie les jeux porno sur micro-ordinateur dans les années 80, donc en fait, surtout quand on étudie les jeux sur micro-ordinateur dans les années 80, c'est les sources sur lesquelles on se repose en fait pour écrire cette histoire et pour l'étudier. Moi, je travaille surtout avec des archives amateurs, amatrices. C'est donc archive.org, que vous connaissez sans doute, qui est une grande archive là où à peu près tout le monde peut uploader des logiciels, des livres, etc. Donc des choses qui sont libres de droit, des choses qui sont moins libres de droit. Mais en tout cas, c'est un endroit qui conserve du contenu, donc là où on peut héberger beaucoup de choses. Adrienne Shaw, qui est une chercheuse, non, qui est une chercheuse états-unienne, a fondé la LGBTQ Archive, là où à partir des archives de Internet Archive, donc de archive.org, elle cherche des jeux là où il y a des personnages LGBT à travers l'histoire. Et donc elle a fait un site là où elle référence les personnages, là où elle les présente, etc. Elle présente les jeux aussi. Donc c'est une des sources qu'il y a, mais c'est vraiment le bazar. C'est vraiment comme s'il y avait une grande armoire avec tous les dossiers. C'est très difficile à naviguer. Ce qui est plus facile, c'est les archives amateurs, amatrices, qui sont organisées par plateforme. Donc du coup, c'est ce que j'utilise, des archives de Commodore 64. Il y en a qui sont classées par pays, ce qui est fascinant, parce que les personnes passionnées, incroyables, qui s'occupent de ces archives, ont tendance à préserver beaucoup de choses qui sont locales. Donc c'est là qu'on a des jeux italiens, des jeux tchèques. Jaroslav Zvelch a travaillé sur les jeux tchèques pendant le communisme. C'est absolument incroyable. C'est à partir de ce genre de sources-là qu'on a finalement fait le plus de découvertes. Et pour les jeux pornographiques, moi j'ai trouvé un seul site qui s'intéresse aux représentations sexuelles sur Commodore 64, qui s'appelle Girls of 64. Je pense que c'est certainement la seule archive qui s'intéresse à un point de vue sexualisé sur les archives, sur toutes les plateformes confondues. C'est juste que la Commodore 64 est une telle plateforme avec tellement de créations amatrices que je pense... Enfin, c'est toujours une plateforme très vivante aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça peut exister certainement que sur Commodore 64. Il y a encore... Oui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui créent encore sur Commodore 64 alors que c'est sorti en 83. C'est pas facile. J'ai essayé de créer des jeux sur Commodore 64. C'est sympa. Faut avoir du temps. Mais c'est limité. C'est tout un exercice.
Ah, du coup, t'as un petit peu anticipé sur la question suivante qui était celle de ton corpus et de l'objet de ton étude, parce que tu n'étudies pas du coup l'entièreté de la production de jeux vidéo pornographiques. Mais est-ce que du coup, toi, au sein du grand ensemble des jeux pornographiques, tu distingues différents types de jeux? Est-ce qu'il y a différentes familles? Est-ce qu'il y a différents genres? Et bien sûr, est-ce qu'il y a du coup différentes périodes pour le jeu porno? Et pourquoi toi, t'as choisi de te pencher sur les années 80?
Alors du coup, ce qui est fascinant avec les jeux porno, c'est que c'est... Bah, je pense le seul genre de jeu qui réunit plein de genres. Bah, y a des RPG porno, il y a des jeux de plateforme porno, il y a à peu près tout qui peut être dérivé sous forme pornographique. C'est ça qui est à la fois fascinant et du coup c'est terrible parce qu'on ne sait plus où regarder, on ne sait pas le nombre de jeux qu'on perd en regardant un endroit parce qu'il y en a, ailleurs, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de genres de jeux. Dans les années 80, les genres prédominants, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut que je fasse des statistiques sur les genres de jeux. Je les ai répertoriés, je vais voir. Il y a beaucoup de jeux qui sont aussi des détournements d'autres jeux. J'ai une colonne dans mon fichier Excel qui répertorie des jeux porno pour savoir si c'est un détournement d'un jeu qui existe déjà où le personnage principal a été remplacé par un pénis. Ce qui est étonnamment, là, c'est pas courant, mais ça existe assez souvent. J'espère que je peux dire pénis hein, à la radio.
Je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. On est sur une émission scientifique, donc du coup, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est tout à fait scientifique. Dans les classifications, ce qui me passionne avec les jeux des années 80, c'est que c'est un moment là où l'industrie commence à se construire, en fait, l'industrie sur micro-ordinateur, donc sur ordinateur à la maison, ce qu'aujourd'hui on appelle des PC. Donc en fait, l'industrie n'est pas entièrement organisée, elle s'organise autour de grandes entreprises comme Sierra Online, donc il y a fait Softporn Adventure, mais d'autres jeux plus connus, comme les jeux Suit Larry plus tard, mais beaucoup de jeux d'aventure dont vous avez peut-être entendu parler un jour. Mais c'est des vieux jeux, donc si vous n'avez pas entendu parler, c'est OK. Et du coup, ces jeux amateurs, c'est principalement des jeux amateurs, même s'il y a quelques entreprises qui font des jeux porno. J'ai l'impression que c'est plutôt en Europe qu'il y a des entreprises qui font des jeux vidéo porno, de façon commerciale. C'est souvent... C'est souvent selon les goûts, j'ai l'impression, des créateurices. C'est vraiment... un petit fourre-tout. Après, dans les années 90, c'est plus organisé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de shareware aussi. Donc, c'est-à-dire des jeux gratuits qui sont partagés, soit sur des BBS, donc qui est un espèce d'ancêtre d'Internet, ou alors sur d'autres ancêtres d'Internet, ou alors par des réseaux locaux, ou le classique, partage de disquettes entre amis. Mais moi, j'ai pas connu, hein, je dis classique, alors que comme si j'étais vivante dans les années 80, je l'étais absolument pas. Et dans les années 90, j'étais toute petite. Et après, dans les années... Tournant des années 2000, évidemment, les jeux flash qui explosent. Donc, c'est plus ma période de travail. Mais ça m'intéresse énormément, parce que je pense que pour bien étudier une personne, il faut quand même savoir ce qui se passe avant et après pour pouvoir comparer et pouvoir voir ce qui est le plus pertinent, justement, à cette époque choisie. Donc, pour moi, dans les années 80. Et avec... Ce qui m'intéresse énormément dans les années 2000, c'est le tournant des jeux vidéo indépendants, donc en ligne avec des plateformes comme Itch, avec des créateuristes comme Anaentropy, etc. Plein de créateuristes qui retournent le monde du jeu vidéo en partageant des jeux de façon gratuite, qui parlent de sujets dont on avait... qui avait jamais parlé avant, avec des moteurs comme Twine, etc., qui est un moteur pour créer des jeux textuels de façon hyper facile et gratuite, si ça vous intéresse. Et là, c'est une nouvelle explosion incroyable du jeu porno érotique, quelle que soit la limite entre les deux qu'on veut y mettre. Disons, sur des jeux qui parlent de sexualité d'une manière générale. Donc là, actuellement, évidemment, des plateformes comme Itch, donc, qui est un revendeur... de jeux vidéo à la manière de Steam, mais qui est sur un site ou sur une application, sur PC ou sur mobile. Propose beaucoup de jeux, donc qu'ils soient payants ou qu'ils soient gratuits. Je pense qu'une très grande majorité des jeux sur Itch sont gratuits. Et voilà, ça a l'avantage d'être une plateforme là où on retrouve beaucoup de développeurs et de développeuses. Alors aujourd'hui, on est moins amateurs, même si ça correspond quand même pas mal à des gens qui se trouvent sur Itch, mais beaucoup de développeurs indépendants. C'est vraiment leur plateforme de prédilection, et donc qui parlent de sujets, qui font des jeux qui pourraient pas exister sur console, là où il y a des lignes directrices qui sont très, très strictes, donc faire des jeux qui sont explicites, même faire des jeux qui sont féministes ou faire des jeux qui sont antiracistes, c'est absurdement difficile sur des consoles, alors que ça fleurit sur Internet, sur des plateformes comme Itch. Voilà, un genre d'évolution lacunaire et parcellaire, et qui finit sur cette invitation à aller sur Itch pour jouer à plein de jeux. Pas juste porno, même s'il y a énormément de bons jeux porno sur Itch.
On aura peut-être l'occasion, juste après, de revenir sur Itch et sur les canaux de diffusion des jeux. Mais avant ça, d'un point de vue plus théorique peut-être, comme tu travailles à la jonction des domaines du jeu vidéo et de la pornographie, je me posais la question de ton rapport aux porn studies et aux game studies. Sur quelle assise théorique tu te reposes, et est-ce que tu situes ton travail plutôt du côté des game studies ou plutôt du côté des porn studies?
Alors, du coup, ça c'est une question théorique hyper importante pour moi qui suis allée relativement, on va dire, au début-milieu de mon parcours de thèse. Donc je suis en train de faire des lectures en porn studies, etc. C'est pas ma formation du tout, donc du coup j'avance un petit peu à l'aveugle, ce qui est toujours passionnant quand on aime la théorie, et lire plein de livres qui s'entassent dans notre bibliothèque, et les lire, Jean, pas comme toi qui ne lis pas tes livres qu'on t'offre. Et de ce que je vois des porn studies, les définitions de la pornographie, donc ce dont on... C'est pour ça que j'ai fait court tout à l'heure, parce que je savais que t'allais parler des porn studies après. J'ai pas l'impression que ça rentre totalement le jeu porno dans les définitions de la pornographie. Parce qu'en fait, il y a quand même... La pornographie au XXe siècle a explosé, évidemment, au cinéma, en vidéo, maintenant, sur Internet, avec des sociétés comme MindGeek qui gèrent Pornhub, etc. Et quand on parle de pornographie, on parle évidemment de tout ce système qui est quand même un système qui est ancré à une capitalisation du désir, si on veut. C'est quand même une surenchère de contenu, c'est un marché, la pornographie. Alors que j'ai l'impression que les jeux vidéo pornographiques n'ont jamais vraiment été trop dans ce rapport de force, parce qu'il y a toujours eu une grande place pour les amateurs et les indépendants. Alors, je connais pas très bien toute la pornographie filmée, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande place pour les amateurs et les indépendants sur le marché. Mais je pense que c'est plus difficile d'exister, évidemment, les conditions de travail. Ça n'a rien à voir. Les créatrices de jeux porno ne peuvent pas être considérées comme des travailleurs du sexe, à mon avis. Même si ça peut être une question intéressante en question de droit du travail, mais je ne pense pas. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec tout ce que ça implique d'être un actrice de films pornographiques. Et des fois, quand je lis des écrits de Porn Studies, j'ai l'impression que ça colle pas tout à fait. Alors c'est avec la définition, enfin avec les jeux vidéo pornographiques. Alors c'est, à mon avis, c'est vraiment à suivre. Ça ouvre beaucoup de pistes théoriques. Mais il y a ce truc que les jeux pornographiques se situent quand même pas totalement dans une marchandisation effrénée. Alors il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de contre-exemples à ce que je suis en train de dire, même. Actuellement, MindGeek, qui possède Pornhub, a également un site de jeux vidéo pornographiques qui est dans un système mercantile. Alors, c'est des espèces de RPG où... Alors, il y a plusieurs genres de jeux, mais j'ai l'impression que la plupart, c'est plutôt des RPG, là où, en montant de niveau... on développe des affections sexuelles ou des scénettes sexuelles avec des personnages qui sont dans le jeu, où le sexe est comme une récompense. Donc ça, c'est les jeux porno sur lesquels vous n'osez pas cliquer quand vous voyez des pubs avec des furies sur le bord de votre navigateur, quand vous êtes sur des sites questionnables, ou pas questionnables d'ailleurs, parce que... ils achètent certainement des encarts sur beaucoup de sites. Donc ça mène vers ce genre de production. Et alors, bon, bah là, c'est mes œillères personnelles et mes biais, évidemment, de recherche et de joueuse personnelle qui m'invitent plus à regarder vers des sites comme Itch, vers des créatrices comme Pierre Corbinet qui font des jeux comme Not Safe for Wear à partir de clips de Pornhub, mais un espèce de petit WarioWare, un mini-jeu avec des petites scénettes sexuelles hyper diversifiées, LGBT, etc. Très, très intéressant d'un point de vue jouabilité, identification de genre, etc. Tout est hyper inclusif, donc j'ai mes œillères d'inclusivité, donc j'évite de regarder ce qui m'embête trop. Et notamment, je pense, beaucoup de productions Flash et maintenant HTML5, donc du coup ces jeux qui sont jouables dans le navigateur, donc on n'a pas besoin de télécharger, ce qui est pratique quand on a un ordinateur familial. Il y en a énormément qui sont des espèces de retranscriptions, de même visuels un petit peu animés, de chara-design japonais avec des seins énormes. Et des sexes, tout est démesuré, etc. Mais c'est pas ce que je regarde. Donc du coup, mon approche peut être faussée par ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai domaine de résistance des jeux pornographiques qui sont assez inclusifs, assez progressistes, hyper acceptants, etc. Qu'on peut retracer à travers l'histoire. Alors dans les années 80, évidemment, tout est pas rose, mais j'ai quand même pas mal de traces de jeux qui promeuvent une certaine inclusivité. C'était plus facile à l'époque parce que il suffit finalement de faire un jeu textuel. On n'a pas besoin de poser la question du genre des gens. On n'a pas besoin de faire une représentation visuelle des personnes qui jouent. Du coup, en fait, le genre n'a pas d'importance. Il ne peut pas y avoir de représentation de couleur de peau parce qu'encore une fois, c'est textuel. Donc du coup, on est sur des jeux qui sont naturellement plus bienveillants. Et en fait, on repère très vite quand il y a un problème, c'est quand ils nous demandent notre identité de genre, quand ils nous demandent notre orientation sexuelle, etc. C'est des preuves, c'est des indices rapides pour voir que les jeux seront moins inclusifs.
Il est l'heure de la seconde petite pause musicale. On écoute cette fois un extrait proposé par notre invité. Il s'agit du morceau d'introduction de Sexy Droid, composé par Holger German, sorti en 1992 sur Amiga et développé par Eleven Software.
Thank you.
Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Charlotte pour la suite de l'entretien.
Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, on peut revenir rapidement dessus. D'un point de vue historique, quels ont été et quels sont aujourd'hui les canaux de circulation des jeux pornographiques qu'on imagine du coup être commercialisés ou alors ou distribués en tout cas, hors des canaux classiques qui généralement veulent garder une image du coup de, comment dire, de médias très corrects pour le jeu vidéo.
Alors du coup, dans les années 80, dans l'industrie naissante des jeux vidéo, donc il y avait dans les boutiques d'informatique, c'était les endroits adorés pour les gens qui aimaient l'informatique. Pour resituer un petit peu, à l'époque, on pouvait acheter des ordinateurs en kit. Donc déjà, je veux dire, genre, aujourd'hui, je pense que c'est bien plus simple de construire un ordinateur qu'à l'époque, là où on pouvait pas chercher sur Internet quand on avait un souci. En plus ça coûtait genre 10 fois plus cher un ordinateur à l'époque, du coup il fallait absolument pas se tromper, donc c'est un truc assez niche, les boutiques d'informatique pour des personnes, des amateurs et des amatrices d'informatique. C'est des endroits là où ils allaient pour acheter des composants. Je me suis trompée de résistance, il fallait que je prenne la B612, etc. C'était des endroits là où j'ai l'impression qu'il y avait une certaine forme de socialité entre mon chat fait une apparition, je sais pas si vous l'entendez, désolée. Une forme de socialité entre les personnes qui assistaient, qui venaient au magasin, les propriétaires du magasin, donc les vendeurs. Et j'ai l'impression que c'est un endroit aussi où il peut y avoir des clubs de regroupement de ces personnes-là selon leurs intérêts. Et aussi des clubs de création, donc pour s'entraîner à programmer, apprendre le basic ensemble, apprendre d'autres langages de programmation, apprendre à utiliser des logiciels. Et donc, souvent, les gens qui créaient des jeux dans les environs, qui avaient l'habitude en tout cas de venir à cette boutique, pouvaient apporter leur petit logiciel. Je suis en train de faire des gestes comme si je saisissais quelque chose de tout fin dans mes doigts. En fait, souvent, les jeux étaient vendus dans des disquettes ou sur des cassettes et mis dans des zip bags, là, je suis désolée, je fais ma thèse avec des Québécois, ils parlent comme ça tout le temps, donc je vous chope des tics de langage. Donc c'était vendu dans des sachets congélation, dans des poches congélation, avec, on peut imaginer, une petite étiquette écrite à la main, scotchée dessus avec le nom du logiciel, peut-être une documentation imprimée à la maison avec l'imprimante qui coûte presque le prix de l'ordinateur branché au micro-ordinateur, pour écrire ce que c'était. Donc du coup, ça pouvait être tout genre de logiciel. Beaucoup de gens dans les années 80 prétendaient qu'ils faisaient leurs impôts sur leur ordinateur et que c'était absolument pour ça qu'il leur en fallait un, alors que c'était le bordel, c'était absolument impraticable de ce que j'ai compris. Et du coup, il y avait aussi des jeux qui étaient partagés à ce moment-là, donc du coup, directement, de façon très locale, il pouvait y avoir des jeux qui étaient partagés. Et après, des personnes avec de plus grandes ambitions et des plus grands budgets pouvaient aussi... acheter des petits encarts publicitaires, donc dans des magazines spécialisés, de la presse spécialisée sur l'informatique à l'époque. Donc là, on imagine des magazines spécialisés sur Commodore 64 ou sur ZX Spectrum, qui avaient des pages entières dédiées à la publicité pour des logiciels soit professionnels, soit amateurs. Et du coup, les gens donnaient généralement leur véritable adresse, leur numéro de téléphone, et il fallait appeler le créateur directement et lui envoyer un chèque par la poste, et il nous renvoyait le logiciel. Donc c'est un circuit qui a l'air absolument fascinant, et puis facile à fantasmer, parce qu'on imagine ce mini-circuit, alors que Nintendo arrive en 83 également avec la NES, donc le marché sur micro-ordinateur, c'est vraiment une autre planète dans le jeu vidéo, qui est bien moins renseignée que l'histoire sur console. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Mais du coup, ça rend tout ça très difficile à retracer. Alors, un des avantages, c'est que les créateuristes signaient leur jeu avec leur vrai nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, ce qui donne des indices, ce qui donne énormément d'indices pour les retrouver. Mais évidemment, c'était dans les années 80, du coup, c'est presque impossible de savoir où est-ce qu'il et elle se trouvent aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment... J'enfile une casquette du côté investigation de la recherche que j'avais jamais fait avant et qui est vraiment fascinant. Dans mon mémoire de master, je travaille sur des figures de détective, puisque dans les jeux d'aventure, on doit résoudre des énigmes. Et là, c'est la praxis. J'essaie de retrouver les gens à travers des traces qu'ils peuvent laisser sur des forums quand ils se sont créés un compte sur un site dédié à la préservation de certains jeux, etc. J'essaie de retrouver des traces comme je peux, mais c'est hyper dur. Là, là, tout le monde serait au même pied d'égalité avec moi, à partir d'un nom, à partir du nom d'un jeu, etc. D'essayer de retrouver quelqu'un, c'est juste un jeu de pistes. Par lequel j'essaie de faire passer ma thèse, parce que j'aimerais bien avoir des entretiens avec des gens, puisqu'un des avantages du jeu vidéo, c'est que c'est un nouveau média un peu vieux, là. Moi, je pense qu'on ne devrait plus appeler ça un nouveau média. Mais que les gens qui avaient 14 ans dans les années 80, puisque on imagine bien que pas mal de gens qui créaient des jeux porno, c'était des gens qui avaient 14 ans et qui squattaient les ordinateurs de leurs parents. Ils sont encore en vie aujourd'hui et il y a bonne chance qu'ils soient encore qu'ils aient des souvenirs certainement faussés par 50 ans qui sont passés, mais en tout cas qu'ils aient des bons souvenirs de cette époque-là, donc qu'ils puissent donner des bonnes pistes. Mais du coup, tout l'enjeu du circuit de distribution et de partage, c'est vraiment l'enjeu le plus difficile à capter de cette période-là. Et une des choses qui m'intéresse le plus pour ma thèse, parce que ça se situe donc dans cette espèce de monde des jeux amateurs qui n'est absolument pas une industrie comparable à celle qui est sur console au même moment avec Nintendo, Super Mario, ça sort en 85 sur Super NES, sur NES aux États-Unis. Et en 85, on partage encore des jeux dans une poche congélation à côté de ça. Donc, c'est vraiment cet univers parallèle qui est fascinant. Mais pour lequel, l'affaire est à suivre, malheureusement.
Et est-ce qu'il y a ces canaux de diffusion spécifiques dont tu viens de nous parler, mais sur lesquels, du coup, tu as encore pas mal de recherches à mener, est-ce que ces canaux de diffusion vont répondre... ou en tout cas va répondre à un cadre créatif et professionnel particulier. Puisque du coup, créer des jeux porno, vu que c'est pas commercialisé et distribué normalement, il y a forcément des enjeux différents, donc les canaux de diffusion un peu particuliers. Et est-ce qu'il existe des conditions de travail spécifiques pour celles et ceux qui créent des jeux pornographiques, aussi bien du coup sur la période que toi tu étudies, que maintenant, si jamais tu as aussi des éléments de réponse sur la période actuelle.
Mais alors ça, c'est une des questions qui m'intéresse le plus. Je pense que je fais que dire ça à chaque question que tu poses, Jean, je suis désolée. C'est mon sujet de thèse, évidemment que ça m'intéresse, je devrais arrêter de dire ça. Mais en fait, la question des conditions de travail, la question du travail d'une manière générale, ça me tient énormément à cœur. Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de choses à tirer de savoir comment est-ce que les gens travaillaient de façon gratuite dans les années 80 pour créer des jeux, de savoir comment est-ce que les gens travaillent aujourd'hui gratuitement pour partager des jeux sur des plateformes comme Itch par exemple. C'est tout ce qui rentre dans le travail invisible et dans le travail gratuit. C'est quelque chose qui est évidemment très valorisé dans l'histoire de l'industrie vidéoludique et de l'industrie informatique, parce que c'est du travail de passion, c'est des métiers passion, donc les entreprises profitent que les personnes soient passionnées pour fournir plus de travail, pour ne pas compter leurs heures, etc. Donc je sais que je vous aide pas à convaincre, que vous avez certainement fait une chronique sur les conditions de travail. Lise, tout à l'heure, t'as parlé de The Witcher et t'as mentionné les conditions de travail des créatrices. Je pense que pour beaucoup de ces créatrices dans les années 80, c'était quelque chose qui pouvait être bonifié sur un CV d'avoir appris la programmation. Certainement pas d'avoir créé des jeux porno, je pense pas. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je veux le plus contacter des créatrices de cette époque-là, pour savoir des questions très, très sociales, vraiment de sociologie. Donc plutôt quel est leur milieu social. Donc là, je pense que je sais à peu près que ils vont me répondre, ils et elles vont me répondre qu'ils sont plutôt de classe moyenne aisée, voire de classe supérieure, parce que pour posséder un ordinateur à cette époque-là, Il fallait avoir le temps et l'argent. Donc, évidemment, quand tout le monde travaille à la maison, quand on n'a pas l'argent pour avoir une babysitter, une nounou, quand on a des enfants, c'est pas quelque chose qui est possible de développer des hobbies aussi prenants que la programmation dans les années 80. J'aimerais savoir où était leur ordinateur dans la maison, comment est-ce qu'ils faisaient pour passer des heures devant, mais de façon très pratique. Qui c'est qui avait accès à leur ordinateur, comment est-ce qu'ils s'organisaient, etc. À la manière de, si vous avez lu A Room of One's Own, là, une chambre à soi, là où, excusez-moi, le stress radiophonique me fait oublier l'autrice fantastique d'une chambre à soi, ce qui Virginia est un manquement Woolf. Total. Merci. Donc, où Virginia Woolf parle du processus de création littéraire et qu'il est nécessaire pour pouvoir écrire d'avoir une chambre à soi, donc littéralement une pièce en plus, là où on peut aller au calme pour écrire. Et ce qui est un luxe qu'une grande majorité de la population ne peut pas s'accorder, donc en particulier à cette époque-là, et en particulier les femmes. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de littérature féminine, d'origine féminine que masculine. Et donc je pense que sans surprise, je devrais être vers des conclusions qui sont à peu près celles-là. Quoique, j'ai fait des lectures dans le dernier numéro de Feminist Media Studies, qui était consacré à l'histoire des jeux vidéo. Il y a un article de trois personnes fascinantes, et je me rappelle juste des noms de famille de deux personnes, donc c'est Tra Andrea et Russwurm. Et il y a une troisième autrice dont j'ai oublié le nom, et qui parle de personnes de l'histoire des jeux vidéo aux États-Unis, donc c'est de l'histoire que de l'histoire de personnes noires de l'industrie des jeux vidéo aux États-Unis. Et quand elles parlent, les chercheuses parlent aussi de leur vécu, et quand elles parlent de leur vécu, de leur enfance, de l'accès aux jeux vidéo, donc moi par exemple, tout à l'heure j'ai mentionné que mon frère ne me laissait pas toucher la manette, et que mes parents ne luttaient pas particulièrement contre ça, mais c'était pareil pour l'ordinateur qu'il y avait à la maison. Je crois que ça c'est un vécu qui est assez courant dans les familles blanches, en France en tout cas, et alors que pour ces chercheuses états-uniennes, le partage des ordinateurs à la maison, je sais pas, mais en tout cas des consoles de salon avait l'air d'être bien plus égalitaire entre les différents genres des enfants dans la famille. Donc du coup je pense qu'il y a il y a un biais aussi qui est à défaire, et d'aller chercher sur les d'aller voir comment est-ce que ça se passe. Donc évidemment c'est difficile de savoir quelle est la couleur de peau des créatrices de jeux des années 80, parce que c'est pas quelque chose qu'on crie sur un jeu vidéo quand il est textuel ou quand c'est pas important la couleur de peau, etc. Mais il peut y avoir des indices. Il y a dans les 18 couleurs que permet la Commodore 64, je crois, il y a quand même des créatrices qui font des jeux avec des personnages noirs. Donc du coup j'aimerais explorer cette piste, donc voir si ces constructions sociales sont pareilles dans des familles. Est-ce que c'est uniquement afro-américain, ou est-ce que c'est pareil en France? Voilà, c'est des questions de sociologie que j'aimerais bien creuser, et qui touchent la moins aux jeux pornographiques, mais à l'univers aussi de la création amateur d'une manière générale.
Merci beaucoup Charlotte d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver l'entretien dans son intégralité sur le site internet de Radio Campus Paris. Et pour la suite de l'émission, je redonne la parole à Alice.
Merci Charlotte, merci Jean pour ces échanges. Je laisse maintenant la parole à Ash qui va prendre le micro pour sa chronique.
Salut Alice, tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Eh ben moi, pas du tout, et je déteste le jeu vidéo. Et enfin, c'est pas une blague ou une amorce pour dire qu'en fait je déteste telle partie du jeu vidéo, telle façon de voir le jeu vidéo. Non, c'est juste que, comme un peu tout le monde, je me suis lancé dans le JV par passion, j'ai fait 5 ans d'études relativement dures, pour un salaire et des conditions pas ouf au final, et ouais, aujourd'hui, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir un grand avenir là-dedans, c'est un job alimentaire, quoi. J'ai pas de lien émotionnel avec le jeu vidéo, c'est juste ce que je fais. Quand je dis ça, souvent, des gens s'inquiètent. Mais concrètement, ma meuf est manutentionnaire, c'est la même pour elle, sauf qu'elle s'explose le dos, il manque de main-d'œuvre à cause des accidents du travail qui s'enchaînent, et la période de Noël a même pas encore commencé. Genre je me plains vraiment pas, c'est juste le travail sous le capitalisme et pas le pire. Et puis, je suis pas la seule à ressentir ça, c'est un truc dont je parle avec des collègues, des connaissances, etc. J'ai l'impression que c'est très mal vu de dire ça aujourd'hui. On a cette image du dev de jeux vidéo entreprenant qui va aux grandes conférences, qui fait du networking, qui discute passionnément. Et au final, notre réalité plus morne, bah elle est un peu taboue. Mais à côté de ça, il y a encore plein de travailleurs du jeu vidéo qui sont sincèrement passionnés par ce qu'ils font, qui sont super fiers et attachés aux jeux sur lesquels ils ont bossé, et c'est très bien. Ça les empêche pas de voir les problèmes parfois d'être syndiqués. Mais du coup, il y a plein de sujets sur lesquels on aura des avis qui divergent un peu. Typiquement, à chaque fois qu'on parle de boycotter les jeux, le même débat revient. C'est notre seul moyen de contestation de l'extérieur. Et en même temps, est-ce que c'est pas irrespectueux pour les travailleurs qui sont réellement attachés à leur jeu? Et plus généralement, on cherche de plus en plus à défendre les intérêts des travailleurs des jeux vidéo. Mais ça veut dire quoi, concrètement, quand il y a tellement d'avis différents parmi nous sur ce que sont nos intérêts? Est-ce qu'il y en a un qui vaut plus et écrase les autres? Ou est-ce qu'au contraire, on écoute tout le monde et on sait jamais trop quoi faire? Perso, quand j'étais étudiante, quand je commençais à bosser, on était pendant la grande démocratisation du jeu vidéo, et j'étais super hypé de voir que ça marchait bien, que le public s'élargissait, que l'industrie explosait, qu'on avait même plein de financements publics. C'était une vision un peu corporatiste. Cool, plus de JV, ça profitera à tout le monde. Sauf que, on l'a déjà répété souvent, l'industrie ne se soucie pas de ses travailleurs. Les plus grandes entreprises gagnent des milliards mais imposent toujours les mêmes conditions horribles à leurs travailleurs, Blizzard, Epic, Rockstar, etc. Tout va dans la poche des patrons. Enfin bon, c'est un peu caricatural. En vérité, l'argent est investi pour faire grandir l'industrie de façon exponentielle, et donc en minimisant les coûts côté travail, donc en précarisant à mort les travailleurs. Ubisoft en France est un très bon exemple. Leur politique commence à être décortiquée dans plusieurs communiqués des sections Solidaires et STJV là-bas. Ils multiplient les CDD, gros turnover, il y a une politique managériale d'évaluation assez violente. Le tout ensemble, ça donne aux leads les outils pour mettre la pression un peu comme ils veulent aux membres de leur équipe. Et cette hiérarchisation, cette précarisation, cette pression, c'est évidemment certains des éléments qui permettaient au harcèlement sexuel d'être aussi omniprésent. C'est pas vraiment que tout va dans la poche des patrons. C'est plus que le moins possible ira dans la poche des salariés, qu'on nous donnera juste ce qu'on aura pu un peu arracher. Et ça, c'est souvent quelque chose que tu vas réaliser uniquement quand tu y es confronté très concrètement. En ce moment, je réalise des entretiens avec des syndiqués du jeu vidéo, certains deviennent gauchistes vers 30, 35, 40 ans, parce qu'avant ça marchait pour eux, et tu questionnes pas la structure, et puis un jour, pouf, ça merde, tu vis du harcèlement ou tu passes 10 ans à passer de boîte qui coule en boîte qui coule. J'ai un camarade qui disait qu'autour de lui, il y avait des gens qui faisaient 400 heures sup par an, le double du maximum autorisé par la loi, et le tout rémunéré, noté sur la fiche de paye, il suffit d'un coup de fil à l'inspection du travail. Pourquoi est-ce qu'on ne le passe pas? Bah, simplement, comment est-ce que tu payes le procès? Comment est-ce que tu fais face aux pressions, aux conséquences dans la boîte, voire au licenciement? La loi, elle s'applique un peu quand t'as les moyens de te défendre. Et plus généralement, c'est une question qui, je pense, s'est posée chez tellement d'employés après les différentes vagues de révélations. On fait quoi maintenant? Tout le monde sait, la direction a promis de changer, mais s'il se passe rien, tu fais quoi? Bah, on construit du collectif. On réalise que si on n'a pas d'armes pour se défendre, rien n'empêche un peu les patrons d'imposer ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas du tout une question de voir les patrons comme des grands méchants. Certains sont très gentils, sont très respectueux. Le problème est pas là. Le problème, c'est que ça devrait pas être à leur bon vouloir, et qu'il faut ensemble construire un contre-pouvoir à ça. Et là, en fait, on réalise un peu un dernier truc. Le but final, c'est pas simplement d'arriver à être un pied d'égalité avec les patrons. Parce que le jour où on arrivera à un pied d'égalité avec les patrons auront plus d'emprise pour nous et cesseront d'être des patrons. Quand on voit les choses sous cet angle-là, on voit en miroir que d'ici là, on sera jamais vraiment sur un pied d'égalité avec les patrons, tant qu'on n'aura pas cassé cette relation d'exploitation. Et ça, en fait, c'est pas du tout vouloir tout brûler, être des grands méchants contre l'industrie comme on peint souvent les gauchistes. On dit que plus de jeux vidéo, c'est bon pour tout le monde, ça c'est faux. Mais on y oppose, ok, du JV, plus de JV, mais on veut que ce soit bon pour tout le monde. On veut du jeu vidéo, et on le veut avec un modèle d'organisation et de société supérieure, qui soit plus juste et plus égalitaire. Du coup, comment on défend les intérêts des travailleurs du jeu vidéo? Ben, on défend leur organisation, leur émancipation. La question, c'est pas tellement, est-ce que notre petit boycott va mettre la pression sur les chefs? La question, c'est plus, est-ce qu'il va les aider à les soutenir dans cette organisation? Il y a déjà plein de travailleurs qui s'organisent, en France mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, etc. On a vu A Better IBK, on en a parlé dans la dernière émission. Suivez-les, relayez leurs actions, soutenez quand ils demandent de les soutenir. En même temps, derrière tout ça, il y a un certain modèle d'émancipation qui se dessine. Et là, on peut commencer à se poser plein de questions. Est-ce qu'il peut s'appliquer pour l'antiracisme, pour le féminisme, par exemple, comme beaucoup ont essayé de le faire? Le syndicat, c'est bien pour se défendre comme travailleur. Mais en tant que travailleuse, en tant que travailleuse racisée, LGBT, handy, je pense aujourd'hui que c'est un endroit stratégique pour le faire, mais c'est peut-être pas une finalité. Et il va falloir reparler de tout ça dans des prochaines chroniques.
Est-ce que tu crois que les scopes comme Motion Twin, je crois, c'est un type d'organisation de fonctionnement qui peut être envisageable pour protéger, pour mieux défendre en tout cas les intérêts des travailleurs et des travailleuses?
C'est une question. C'est une question que je connais pas à 100%. Par contre, de base, oui, les scopes, c'est vraiment un modèle d'organisation vers lequel on aimerait tendre. Donc oui, complètement. Je pourrais pas te dire à quel point est-ce que c'est parfait, à quel point, etc. J'aimerais bien que justement on s'intéresse un peu de façon critique à Motion Twin ou à d'autres scopes, etc. Pour savoir comment ça marche, si ça marche bien, etc. Sur des questions comme le harcèlement sexuel, etc. Sur le sexisme de façon plus générale, l'égalité. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas des grandes réponses. Après, le truc, c'est que voilà, Motion Twin, c'est une petite société dans une autre grande société qui est extrêmement clivée sur des questions de genre, de race, etc. Et forcément, ils échapperont pas complètement. Donc la question, c'est plus aussi de transformer de transformer des plus grands pans de la société. Complètement. Il y a un discours qui accompagne souvent, qui est qu'il faut créer plus de scopes, etc. Je pense qu'il faut aussi voir que on est beaucoup à être coincé en dehors des scopes et que c'est important de voir ça aussi comme Ubisoft deviendra pas une scope du jour au lendemain, sauf si on les pousse un peu gentiment. Et c'est aussi notre travail nos objectifs en tant que syndicalistes. De ce côté-là.
Ouais, j'imagine bien que c'est pas un modèle qu'on peut appliquer comme ça partout très facilement. Et puis qu'il y a aussi des limites. Je me demandais si tu savais un peu, si t'en connaissais, du coup, mais ça, ouais, à creuser.
J'avais envie de rajouter que aujourd'hui, on a aussi, et tant mieux, des entreprises qui font en sorte d'être syndiquées et de proposer des alternatives, en fait, de mettre vraiment des chartes que ce soit des chartes de diversité ou des chartes de respect tout simplement entre les employés pour éviter en fait toutes ces situations un peu de burn-out et de dégoût finalement des métiers. Et je trouve ça vraiment bien, même si ce n'est qu'une étape sur une longue route.
Oui, on va essayer d'imposer ça partout, mais c'est déjà très bien qu'il y ait des évolutions de ce côté-là. Ouais.
Merci pour ta chronique, H. On approche de la fin de l'émission avec le blind test. Ce mois-ci, c'est toi, Alex, qui va tester nos connaissances musicales sur le thème « Heureusement que c'est beau parce que c'est nul ».
Préparez-vous à un blind test de la mauvaise foi, notamment parce que, je ne serais pas là sinon, mais j'aime beaucoup le jeu vidéo. Il y a quand même beaucoup de jeux vidéo que tout le monde aime et que je trouve vraiment, vraiment très, très nul. Je pense qu'on va pouvoir commencer sans plus attendre avec Lazare, notre super réalisateur. Est-ce que tu peux envoyer le premier morceau ?
Du coup, c'est la musique de mauvais jeu, c'est ça ?
Ça dépend pour qui.
Est-ce que c'est Hellblade ?
Oui,
oh,
exactement.
Wow, rapide.
Bravo. C'est effectivement extrait de Hellblade. J'ai choisi ce morceau-là parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve énormément dans le jeu. C'est ces petites voix super oppressantes qui sont toujours autour de nous. Donc Hellblade, c'est un jeu qui est développé par Ninja Theory, qui est donc le studio qui nous a sorti, entre autres, Heavenly Sword ou Enslaved, qui sont pour moi des très bons jeux. Et c'est un jeu Hellblade qui est très très beau et qui est aussi très très bien, mais qui serait encore mieux sans ses combats et peut-être même sans ses énigmes. En fait, je pense que c'est un jeu qui serait excellent si juste on pouvait marcher, voilà, juste parcourir le jeu en marchant, ce qu'on fait déjà en fait, mais sans tous ces trucs autour là qui servent à rien et qui sont juste imbitable du début à la fin. Donc voilà, je sais pas si vous y avez joué, mais...
C'est dur, moi j'étais hypée par Hellblade. je trouve que ça a l'air super, c'est vrai que visuellement c'est magnifique. Représentation de la santé mentale aussi, ça a l'air hyper intéressant. Donc je suis toujours hypée malgré ce que tu dis.
Ah non, mais je t'invite quand même à y jouer, mais c'est... Il a des petits problèmes, quoi. Mais surtout, par contre, n'y joue pas en VR. Voilà, ça donne la gerbe, d'accord. C'est insupportable. On va pouvoir passer au morceau suivant, qui est un peu plus dur, donc je vous donnerai peut-être des indices.
Est-ce que c'est un Batman ?
Pas du tout.
Ça me stresse, je pense que je sais.
On est quand même sur un jeu d'action.
Tomb Raider ?
Sorti en 2012. Non. Qui n'est pas Tomb Raider.
Ah, putain.
Est-ce que c'est dans un univers contemporain ?
Oui. C'était le thème principal, le thème du menu de Resident Evil 6, qui est un jeu qui est pas très très bon. Moi, que je trouvais très beau quand il est sorti, par contre. Mais qui est pas très très bon. Personne trouve qu'il est très très bon. Mais alors, en multi, par contre, c'est vraiment incroyable. Je pense que le jeu se révèle quand on y joue en multi. Et, bon, il a été pensé pour ça de base aussi. Mais voilà, c'était mon petit Resident Evil aussi. Il en faut bien un, quoi, dans ces jeux beaux qui sont pas très bons.
C'est celui qui se passe où, le 6 ?
Un peu partout.
Ah, d'accord.
Du coup, on a juste un point pour H pour l'instant. Mais j'espère que ce troisième morceau va pouvoir faire émerger quelqu'un d'autre ou peut-être confirmer son avance.
C'est Donkey Kong, non ?
Pas du tout.
Mince.
Mais ça pourrait.
Mario ?
Non plus.
Un jeu éducatif ? On dirait vraiment une musique de jeu éducatif.
Ouais. Putain, je connais.
Ah, c'est la course de Chocobo. C'est Final Fantasy.
Ah oui, mais lequel ?
Final Fantasy 7 ?
Ah non.
Le 8.
FF15.
Non plus.
Mais... Ah, c'est pas le jeu course Chocobo, justement ?
C'est...
Ils sont pas tous nuls, de toute façon, les Final Fantasy.
Oups.
Alors, c'est bien Final Fantasy.
C'est horrible, je suis... Là, je la connais, la musique, mais je sais plus d'un
Je sais pas si on peut donner le point à la personne qui a dit en premier que c'était un Final Fantasy. Mais c'était Final Fantasy.
Oui, je pense que ça compte. Mais c'est pas moi, en plus.
alors, du coup, c'était effectivement un Final Fantasy, et très précisément, c'était Final Fantasy XIII Lightning Returns. Ouais, mais...
Quoi ?
Oui, c'est vrai, ça y est, ça me revient.
Mais non.
Mais si. Mais si, et je dois le dire maintenant, j'aime beaucoup FF13 et 13-2. Et pour moi, FF13, c'est encore un des jeux les plus beaux de sa génération. Mais pour FF13, du coup, Lightning Returns, c'est vraiment un non, quoi. Je réessaye régulièrement, et je sais pas si c'est le changement complet de gameplay, ou bien le fait que le jeu soit complètement chronométré, mais personnellement, j'y arrive pas. On va pouvoir passer au morceau d'après. Petit indice, c'est complètement de la mauvaise foi.
Assassin's Creed 4 Black Flag, non ?
Non.
Ah non, c'est où ? Assassin's Creed Odyssey, c'est Odyssey.
Oui, effectivement.
Waouh, quelle efficacité.
Bravo, c'est clair.
J'étais sûr que celui-là serait reconnu dès les premières notes, parce que son thème est quand même reconnaissable des autres Assassin's Creed. Mais j'y ai joué 50 heures avant de me rendre compte que j'aimais pas du tout ce qui se passait. 50 heures avant de me rendre compte que attirer les mercenaires au bord d'une falaise et les Spartans kickés, c'était vraiment pas très amusant, et que vu que j'étais globalement qu'au début du jeu, j'ai décidé d'arrêter. Parce que si tu passes 50 heures à faire un truc sans avancer dans le scénario et que tu t'amuses plus, je pense qu'il faut arrêter les frais, quoi. On va donc pouvoir passer au dernier morceau, et pour l'instant on a un point pour H, deux points pour Lys, et un morceau non trouvé. Pour ce dernier morceau, c'est le plus compliqué. Je peux vous donner deux petits indices en vous disant que c'est un triple A sorti en 2020.
Est-ce que ça serait pas Ghost of Tsushima ?
Exactement, bravo.
Ouais, j'ai hésité, bien joué.
Effectivement, Ghost of Tsushima, du coup, développé par Sucker Punch. Donc c'est sorti en 2020, hein, l'année dernière, et c'est un jeu qui est très bien sur sa première partie. Le problème, c'est que des parties, il en a 3, donc après 25 heures sur le premier tiers à chercher tous les petits renards, j'ai décidé d'avancer, et c'est là que j'ai commencé à voir flou, parce qu'on voit 80% du contenu dans le premier tiers et après ça devient juste lourd. À tel point que j'ai terminé le jeu en ligne droite complète en skippant tout ce qu'il pouvait y avoir à côté, tellement ça répétait tout ce que j'avais pu voir avant. Par contre, la BO, c'est oui, et le jeu est très très joli. Voilà.
Je confirme.
Donc voilà, et voilà qui conclut notre blind test de ce mois-ci. C'est donc Lys qui remporte la coupe blind test ce mois-ci avec 2 points. H, 1 point et Cindy, 1 point. Bravo.
Bravo.
Et c'est H qui prendra le relais le mois prochain pour le blind test. Est-ce que tu as déjà une idée du thème que tu prendras ?
Ouais, ce sera les jeux qui ont une OST qui chante.
Très bien, j'ai déjà beaucoup d'attentes. Beaucoup trop même.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à Charlotte qui nous a fait l'honneur et le plaisir de se joindre à nous pour cet épisode. On vous donne rendez-vous le 28 novembre pour notre prochaine émission. Nous serons en compagnie de Marine Mac pour parler de la sortie de son livre à paraître, Imaginaire du jeu vidéo.